Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Retour donc ensemble dans nos lectures en liberté sur l'œuvre de Vercors, Le silence de la mer. Il dit une fois, c'était dans les premiers temps de ses visites, « Où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci ? » Bien sûr, le bois, la flamme, la cheminée se ressemblent, mais non la lumière. Celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire, des habitants de ce fumoir, des meubles, des murs, des livres, sur les rayons. Pourquoi aimais-je tant cette pièce ? Dit-il pensivement. Elle n'est pas si belle. Pardonnez-moi. Il rit. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dit pas « voilà des merveilles », non. Mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les reliures d'une caresse légère. Balzac, Barrès, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, France, Gautier, Hugo, quel appel ! Dit-il. Avec un rire léger et hochant la tête. Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Rabelais, ni Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Il continuait de glisser lentement le long des livres et de temps en temps, il laissait échapper un imperceptible « Ah !» Quand je suppose il lisait un nom auquel il ne songeait pas. Les Anglais, reprit-il, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens, Dante. L'Espagne, Cervantes. Et nous, tout de suite, Goethe. Après, il faut chercher, mais on dit « et la France ?» Alors, qui surgit à l'instant ? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais ou quel autre ? Il se presse. Ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre, on ne sait pas qui faire entrer d'abord. Il se retourna et dit gravement, « Mais pour la musique, alors, c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Quel nom vient le premier ?»« Et nous nous sommes fait la guerre, » dit-il lentement, en remuant la tête. Il revint à la cheminée et ses yeux souriants se posèrent sur le profil de ma nièce. « Mais c'est la dernière, nous ne nous battrons plus, nous nous marierons !» Ses paupières se plissèrent. Les dépressions sous les pommettes se marquèrent de deux longues fossettes. Les dents blanches apparurent, il dit gaiement « Oui, oui !» Un petit hochement de tête répéta l'affirmation. « Quand nous sommes entrés à Sainte, poursuivit-il après un silence, j'étais heureux que la population nous recevait bien. J'étais très heureux, je pensais, ce sera facile. Et puis j'ai vu que ce n'était pas cela du tout, que c'était la lâcheté. Il était devenu grave. J'ai méprisé ces gens et j'ai craint pour la France. Je pensais, est-elle vraiment devenue ainsi ? Il secoua la tête. « Non, non, je l'ai vu ensuite et maintenant je suis heureux de son visage sévère. Son regard se porta sur le mien, que je détournai. Il s'attarda un peu en divers points de la pièce, puis retourna sur le visage impitoyablement insensible qu'il avait quitté. « Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. » Il regardait ma nièce, le pur profil têtu et fermé en silence et avec une insistance grave où flottaient encore pourtant les restes d'un sourire. Ma nièce le sentait. Je la voyais légèrement rougir, un pli peu à peu s'inscrire entre ses sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement, trop sèchement sur l'aiguille au risque de rompre le fil. « Oui, reprit la lente voix bourdonnante, c'est mieux ainsi, beaucoup mieux. Cela fait des unions solides. » Des unions où chacun gagne de la grandeur. Il y a un très joli conte pour les enfants que j'ai lu, que vous avez lu, que tout le monde a lu. La belle et la bête. Pauvre belle. La bête la tient à sa merci, impuissante et prisonnière. Elle lui impose à toute heure du jour son implacable et pesante présence. La belle est fière, digne, elle s'est faite dure. Mais la bête vaut mieux qu'elle ne semble. Oh, elle n'est pas très dégrossie. Elle est maladroite, brutale. Elle paraît bien rustre auprès de la belle si fine. Mais elle a du cœur. Oui, elle a une âme qui aspire à s'élever. Si la belle voulait. La belle met longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu, elle découvre au fond des yeux du geôlier haï une lueur. Un reflet où peuvent se lire la prière et l'amour. Elle sent moins la patte pesante, moins les chaînes de sa prison. Elle cesse de haïr. Cette constance la touche. Elle tend la main. Aussitôt, la bête se transforme. Le sortilège qui la maintenait dans ce pelage barbare est dissipé. C'est maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat et cultivé, que chaque baiser de la belle part des qualités toujours plus rayonnantes. Leur union détermine un bonheur sublime. Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs parents, sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimiez-vous pas ce conte ? Moi, je l'aimais toujours. Je le relisais sans cesse. Il me faisait pleurer. J'aimais surtout la bête parce que je comprenais sa peine. Encore aujourd'hui, je suis ému quand elle parle. Il se tut, respira avec force et s'inclina. Je vous souhaite une bonne nuit. Un soir, j'étais monté dans ma chambre pour y chercher du tabac. J'entendis s'élever le chant de l'harmonium. On jouait ces huitièmes préludes et fugues que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à cette page, mais jusqu'à ce soir-là, ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Qu'elle les eût repris souleva en moi un plaisir et de l'étonnement. Quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidée ? Ce n'était pas elle. Elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage. Son regard vint à la rencontre du mien, m'envoya un message que je ne déchiffrai pas. Je considérais le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses, dont les doigts se déplaçaient sur les touches comme des individus autonomes. Il joua seulement le prélude. Il se leva, rejoignit le feu. Rien n'est plus grand que cela, dit-il, de sa voix sourde qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. Grand ? Ce n'est pas même le mot. Hors de l'homme, hors de sa chair, cela nous fait comprendre, non. Deviner, non. Pressentir ce qu'est la nature divine et inconnaissable, la nature désinvestie de l'âme humaine, oui. C'est une musique inhumaine. Il parut dans un silence songeur explorer sa propre pensée. Il se mordillait lentement une lèvre. Bar. Il ne pouvait être qu'allemand. Notre terre a ce caractère inhumain, je veux dire pas à la mesure de l'homme. Un silence, puis « Cette musique-là, je l'aime, je l'admire, elle me comble, elle est en moi comme la présence de Dieu, mais ce n'est pas la mienne. Je peux faire, moi, une musique à la mesure de l'homme. Cela aussi est un chemin pour atteindre la vérité. C'est mon chemin. Je n'en voudrais pas, je n'en pourrais suivre un autre. Cela, maintenant, je le sais. Je le sais tout à fait. Depuis quand ? Depuis que je vis ici. » Il nous tourna le dos. Il appuya ses mains au linteau, s'y retint par les doigts et offrit son visage à la flamme, entre ses avant-bras comme à travers les barreaux d'une grille. Sa voix se fit plus sourde et plus bourdonnante. « Maintenant j'ai besoin de la France, mais je demande beaucoup, je demande qu'elle m'accueille. Ce n'est rien être chez elle comme un étranger, un voyageur ou un conquérant. Elle ne donne rien alors, car on ne peut rien lui prendre. Sa richesse, sa haute richesse, on ne peut la conquérir, il faut la boire à son sein, il faut qu'elle vous offre son sein dans un mouvement et un sentiment maternel. Je sais bien que cela dépend de vous, mais cela dépend d'elle aussi. Il faut qu'elle accepte de comprendre notre soif et qu'elle accepte de l'étancher, qu'elle accepte de s'unir à nous. Il se redressa sans cesser de nous tourner le dos, les doigts toujours accrochés à la pierre. « Moi, dit-il un peu plus haut, il faudra que je vive ici longtemps. Dans une maison pareille à celle-ci, comme le fils d'un village pareil à ce village, il faudra. » Il se tut. Il se tourna vers nous. Sa bouche souriait, mais non ses yeux qui regardaient ma nièce. « Les obstacles seront surmontés, dit-il, la sincérité toujours surmonte les obstacles. Je vous souhaite une bonne nuit. »
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman
gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé cent fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant.
Freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Et nous voici à nouveau avec le silence de la mer de Vercors. Je ne puis me rappeler aujourd'hui tout ce qui fut dit au cours de plus de 100 soirées d'hiver. Mais le thème n'en variait guère. C'était la longue rhapsodie de sa découverte de la France. L'amour qu'il en avait de loin avant de la connaître, et l'amour grandissant chaque jour qu'il éprouvait depuis qu'il avait le bonheur d'y vivre. Et ma foi, je l'admirais. Oui, qu'il ne se découragea pas, et que jamais il ne fut tenté de secouer cet implacable silence par quelque violence de langage. Au contraire, quand parfois il laissait ce silence envahir la pièce et la saturer jusqu'au fond des angles comme un gaz pesant et irrespirable, il semblait bien être celui de nous trois qui s'y trouvait le plus à l'aise. Alors il regardait ma nièce avec cette expression d'approbation à la fois souriante et grave qui avait été la sienne dès le premier jour. Et moi, je sentais l'âme de ma nièce s'agiter dans cette prison qu'elle avait elle-même construite. Je le voyais à bien des signes, dont le moindre était un léger tremblement des doigts. Et quand enfin Werner von Ebrenach dissipait ce silence, doucement et sans heurts par le filtre de sa bourdonnante voix, il semblait qu'il me permît de respirer plus librement. Il parlait de lui souvent. Ma maison dans la forêt, j'y suis né. J'allais à l'école du village de l'autre côté, je ne l'ai jamais quitté, jusqu'à ce que j'étais à Munich pour les examens et à Salzbourg pour la musique. Depuis, j'ai toujours vécu là-bas. Je n'aimais pas les grandes villes, j'ai connu Londres, Vienne, Rome, Varsovie, les villes allemandes, naturellement. je n'aime pas pour vivre. J'aimais seulement beaucoup Prague, mais aucune ville n'a autant d'âme. Et surtout Nuremberg, pour un Allemand, c'est la ville qui dilate son cœur, parce qu'il retrouve là les fantômes chers à son cœur, le souvenir dans chaque pierre de ceux qui firent la noblesse de la vieille Allemagne. Je crois que les Français doivent éprouver la même chose devant la cathédrale de Chartres. Ils doivent aussi sentir tout contre eux la présence des ancêtres, la grâce de leur âme, la grandeur de leur foi et leur gentillesse. Le destin m'a conduit sur Chartres, oh, vraiment, quand elle apparaît par-dessus les blés mûrs, toute bleue de lointain et transparente, immatérielle, c'est une grande émotion. J'imaginais les sentiments de ceux qui venaient jadis à elle à pied, à cheval ou sur des chariots. Je partageais ces sentiments et j'aimais ces gens. Et comme je voudrais être leur frère. Son visage s'assombrit. Cela est dur à entendre, sans doute, d'un homme qui venait sur Chartres dans une grande voiture blindée. Mais pourtant, c'est vrai. Tant de choses remuent ensemble dans l'âme d'un Allemand, même le meilleur, et dont il aimerait tant qu'on le guérisse. Il sourit de nouveau, un très léger sourire qui graduellement éclaira tout le visage, puis... Il y a dans le château voisin de chez nous une jeune fille. Elle est très belle et très douce. Mon père toujours se réjouissait si je l'épouserais. Quand il est mort, nous étions presque fiancés. On nous permettait de faire de grandes promenades tous les deux, seuls. Il attendit pour continuer que ma nièce eût enfilé de nouveau le fil qu'elle venait de casser. Elle le faisait avec une grande application, mais le chat était très petit et ce fut difficile. Enfin, elle y parvint. Un jour, reprit-il, nous étions dans la forêt, les lapins, les écureuils filaient devant nous. Il y avait toutes sortes de fleurs, des jonquilles, des jacinthes sauvages, des amaryllis. La jeune fille s'exclamait de joie. Elle dit « Je suis heureuse, Werner. J'aime, oh, j'aime ces présents de Dieu. » J'étais heureux, moi aussi. Nous nous allongeâmes sur la mousse au milieu des fougères. Nous ne parlions pas. Nous regardions au-dessus de nous les cimes des sapins se balancer, les oiseaux voler de branche en branche. La jeune fille poussa un petit cri. « Oh ! Il m'a piqué sur le menton, sale petite bête, vilain petit moustique !» Puis je lui vis faire un geste vif de la main. « J'en ai attrapé un, Werner. Oh ! Regardez, je vais le punir, je lui arrache les pattes. » L'une après l'autre. Et elle le faisait. Heureusement, continua-t-il, elle avait beaucoup d'autres prétendants, je n'eus pas de remords. Mais aussi, j'étais effrayé pour toujours à l'égard des jeunes filles allemandes. Il regarda pensivement l'intérieur de ses mains et dit « Ainsi sont aussi chez nous les hommes politiques. » C'est pourquoi je n'ai jamais voulu m'unir à eux, malgré mes camarades qui m'écrivaient « Venez nous rejoindre !» Non, je préférais rester toujours dans ma maison. Ce n'était pas bon pour le succès de la musique, mais tant pis, le succès est peu de chose auprès d'une conscience en repos. Et vraiment, je sais bien que mes amis et notre fourreur ont les plus grandes et les plus nobles idées, mais je sais aussi qu'ils arracheraient aux moustiques les pattes l'une après l'autre. C'est cela qui arrive aux Allemands toujours quand ils sont très seuls. Ça remonte toujours, et qui de plus seul que les hommes du même parti quand ils sont les maîtres. Heureusement, maintenant, ils ne sont plus seuls, ils sont en France. La France les guérira, et je vais vous le dire, ils le savent. Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment grands et purs. Il se dirigea vers la porte. Il dit d'une voix retenue, comme pour lui-même, « Mais pour cela, il faut l'amour. » Il tint un moment la porte ouverte, le visage tourné sur l'épaule, il regardait la nuque de ma nièce, penchée sur son ouvrage, la nuque frêle et pâle, d'où les cheveux s'élevaient en torsade de sombre acajou. Il ajouta sur un ton de calme résolution, un amour partagé. Puis il détourna la tête et la porte se referma sur lui tandis qu'il prononçait d'une voix rapide les mots quotidiens. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Les longs jours printaniers arrivaient. L'officier descendait maintenant au dernier rayon du soleil. Il portait toujours son pantalon de flanelle grise. Mais sur le buste, une veste plus légère en jersey de laine couleur de bure couvrait une chemise de lin au col ouvert. Il descendit un soir, tenant un livre refermé sur l'index. Son visage s'éclairait de ce demi-sourire contenu qui préfigure le plaisir escompté d'autrui. Il dit « J'ai descendu ceci pour vous, c'est une page de Macbeth ». Dieu, quelle grandeur! Il ouvrit le livre. C'est la fin. La puissance de Macbeth file entre ses doigts avec l'attachement de ceux qui mesurent enfin la noirceur de son ambition. Les nobles seigneurs qui défendent l'honneur de l'Écosse attendent sa ruine prochaine. L'un d'eux décrit les symptômes dramatiques de cet écroulement. Et il lut lentement avec une pesanteur pathétique. Angus. Maintenant, il sent ses crimes secrets coller à ses mains. À chaque minute, des hommes de cœur révoltés lui reprochent sa mauvaise foi. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Désormais, il voit son titre pendre autour de lui, flottant comme la robe d'un géant sur le nain qui l'a volé. Il releva la tête et rit. Je me demandais avec stupeur s'il pensait au même tyran que moi. Mais il dit « N'est-ce pas ce qui doit troubler les nuits de votre amiral ?» Je plains cet homme, vraiment, malgré le mépris qu'il m'inspire comme à vous. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Un chef qui n'a pas l'amour des siens est un bien misérable mannequin. Seulement, pouvait-on souhaiter autre chose? Qui donc? Sinon un aussi morne ambitieux eût accepté ce rôle. Or, il le fallait, oui. Il fallait quelqu'un qui accepta de vendre sa patrie parce que aujourd'hui et pour longtemps, la France ne peut tomber volontairement dans nos bras ouverts sans perdre à ses yeux sa propre dignité. Souvent la plus sordide entremetteuse est ainsi à la base de la plus heureuse alliance. L'entremetteuse n'en est pas moins méprisable, ni l'alliance moins heureuse. Il fit claquer le livre en le fermant, l'enfonça dans la poche de sa veste et d'un mouvement machinal frappa deux fois cette poche de la paume de la main, puis... Son long visage, éclairé d'une expression heureuse, il dit « Je dois prévenir mes hôtes que je serai absent pour 2 semaines. Je me réjouis d'aller à Paris. C'est maintenant le tour de ma permission et je la passerai à Paris pour la première fois. c'est un grand jour pour moi. C'est le plus grand jour en attendant un autre que j'espère avec toute mon âme et qui sera encore un plus grand jour. Je saurai l'attendre des années s'il le faut. Mon cœur a beaucoup de patience. Nous avons terminé pour ce soir donc la lecture de ce texte de Vercors, Le silence de la mer, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.